Je voudrais tout d'abord vous remercier, monsieur l'abbé, pour ces quelques mots de bienvenue.
Je peux monter le micro si besoin.
Voilà. Et puis, également remercier le père Macolive de m'avoir invité à venir dire quelques mots du contexte de la Commune de Paris, de ce contexte qui permet de... Sur le côté.
C'est incroyable, pourtant c'est un excellent micro. Désolé, je pensais que la technique serait...
Voilà. Peut-être faut-il que je parle plus fort.
Oui.
Voilà.
Oui, oui. Merci.
On hésite toujours à élever la voix dans une église. Il faut que je m'habitue à cela. Bien. On remercie donc le père Macolive de m'avoir invité à dire quelques mots du contexte historique du martyr du père Planchat, le contexte de la Commune de Paris, le contexte de ces événements tragiques traversés par notre pays en 1871. Le 22 avril dernier, en l'église Saint-Sulpice à Paris, 5 prêtres assassinés à la fin du mois de mai 1871, pendant la semaine sanglante, par des militants de la Commune de Paris, étaient béatifiés. Il s'agissait de 4 prêtres de la congrégation des Sacrés-Cœurs de Jésus et de Marie, le père Jules Tuffier, le père Jean-Marie Rouchouze, le père Jean-Pierre Tardieu et le père Armand Radigue. 4 prêtres originaires du Massif central, du Forez ou du Gévaudan. Et puis, le 5e, le père Henri Planchat, né ici à La Roche-sur-Yon, il y a tout juste 200 ans, qui avait été, avec Jean-Léon Le Prévôt, l'un des fondateurs des religieux de Saint-Vincent de Paul. Tous les 5 avaient été victimes des massacres de la rue Axo, perpétrés le 26 mai 1871. Ce massacre n'était pas le premier qui était perpétré par les communards au cours de cette semaine sanglante, puisque la veille, à la prison de la Roquette, Monseigneur Darbois, archevêque de Paris, et ses compagnons, pour l'essentiel des prêtres, l'abbé Duguéry, curé de la Madeleine, le père Clerc et le père Ducoudray, tous deux jésuites, et puis un magistrat, conseiller d'État, le président Bonjean, avait été fusillé dans le chemin de ronde de cette prison. Le même jour, 25 mai 1871, un autre massacre avait eu lieu à l'autre extrémité de Paris, le massacre de l'avenue d'Italie, au cours duquel des dominicains et puis également des professeurs et des surveillants de l'école tenue par ces dominicains à Arcueil, l'école Saint-Albert, arrêtée quelques jours plus tôt, avait été assassinée, tirée le long de l'avenue comme à une partie de chasse. Et puis, le 26 mai, a eu lieu ce terrible massacre de la rue Axo, peut-être le plus épouvantable quant aux circonstances qui l'ont entouré. Les communards étaient venus arracher à la prison où ils se trouvaient ces 5 prêtres ainsi que 44 autres otages, pour la plupart des gendarmes, quelques prêtres qui, eux, n'ont pas encore été béatifiés, dont le procès n'a pas encore abouti, et puis 2-3 laïcs, mais pour l'essentiel des gendarmes et des prêtres que l'on avait exhibés, car il n'y a pas d'autre terme dans le quartier de Belleville pendant des heures, sous les menaces, les coups, les insultes de la foule, avant d'être assassiné rue Axo, de la manière la plus désordonnée qui soit, un massacre qui a duré plus d'une demi-heure. Voilà. Et dont le père McAuliffe vous donnera sans doute le détail quand il évoquera la mort du père Planchat. Deux jours plus tard, la commune s'effondrait. Les défenseurs de la commune de Paris, les derniers défenseurs de la commune de Paris, étaient fusillés dans le cimetière du Père Lachaise contre le mur qui, en souvenir, a conservé leur nom, le mur des fédérés. Alors, ces massacres, massacre de la rue Axo, massacre de la prison de la Roquette, massacre de l'avenue d'Italie, ces massacres réveillaient le souvenir pas si lointain à l'époque des massacres de la Révolution française, des massacres de prêtres perpétrés, en particulier à Paris en 1792, au mois de septembre 1792, le massacre des Carmes en premier lieu, du 2 septembre 1792, au cours duquel avaient été massacrés trois évêques et près de 200 prêtres qui ont été béatifiés par le pape Pie XI, il y a presque un siècle. Ce souvenir de la Révolution française, il est encore très présent en 1871. La durée qui sépare les communards de la Révolution française est exactement la même que la durée qui nous sépare de la fin de la Seconde Guerre mondiale. C'est dire la proximité. Ce sont des événements qui sont encore proches. Le traumatisme de la Révolution française, les passions de la Révolution française sont encore vives. Cela veut dire qu'il y a encore, en 1871, des personnes qui sont maintenant âgées, qui, enfants ou même simplement jeunes gens, en ont été les témoins de cette révolution et parfois les acteurs. Et certains acteurs sont morts il y a très peu de temps. J'en donnerai un exemple vendéen. Charles de Lézardière, qui était président du Conseil général en 1848. Il est mort en 1866, 4 ans avant la commune. Charles de Lézardière, sous la Révolution, il était aide de camp de Charette. Ce n'était pas un simple témoin, il a participé aux événements. Et avec ses frères, il avait tenté de libérer Louis XVI sur le chemin de l'échafaud le 21 janvier 1993. Vous voyez, on a encore des témoins actifs de la Révolution qui vivaient très peu de temps avant la Commune de Paris. Alors, le souvenir de la terreur est encore sensible et la vie politique française, elle est tout au long du XIXe siècle marquée par le souvenir de cette Révolution française. Dans ses souvenirs, Alexis de Tocqueville le décrit très bien à propos des événements de 1848. Il dit que les révolutionnaires de 1848 était affairé à rejouer 1793. Et il ajoute, un peu assassin, que on avait l'impression de revoir la même pièce jouée par des histrions de province. Or, une grande partie des communards avaient déjà participé à la Révolution de 1848. Étaient déjà des acteurs de 1848, des événements de 1848. Ils étaient sur les barricades de février et surtout de juin 1848. Beaucoup de communards sont dans ce Paris révolutionnaire les fils ou les petits-fils de sans-culottes. Voilà. Le récit des événements révolutionnaires a abreuver leur enfance. Alors, la commune, elle est marquée par le souvenir de cette révolution qu'elle veut rejouer, prolonger et enraciner. Bien des égards, la Commune de Paris est l'ultime flambée du Paris révolutionnaire. Pendant tout le XIXe siècle, Paris s'est agité régulièrement. Il y a eu des barricades en 1830 qui ont fait tomber Charles X. Il y a eu celle de 1832. Il y a eu celle de 1834, de 1839, celle de février 1848, celle de juin 48. On a oublié juin 48, mais il y a quand même eu 6000 morts en 3 jours. C'est pas rien, c'est pas des petites échauffourées. 6000 morts, 3000 du côté des manifestants, 3000 du côté des forces de l'ordre. On n'a pas fait semblant. 3000 morts en juin 48. Et puis de nouveau 49, 51 au moment du coup d'État. 1871, c'est l'ultime flambée. L'ultime, la dernière. Les conditions ont changé à Paris. On n'est plus en 1848. Entre 1848 et 1871, il y a un personnage qui est passé, qui est le baron Haussmann, qui a transformé Paris, qui a dessiner ces grandes artères, ces boulevards, ces avenues larges, longues, qu'il est très difficile d'obstruer, de barrer avec des barricades, comme on pouvait le faire dans le vieux Paris d'avant 1850, avec ces petites rues que l'on voit encore dans certains quartiers, qu'il était facile de fermer. C'est terminé. Et à l'inverse, l'armée peut progresser dans cette ville avec facilité, et cela explique que la semaine sanglante, finalement, n'ait pas duré plus longtemps, et que les communards ont été balayés relativement rapidement. Voilà. Alors, j'ai souligné que la Révolution était l'événement de référence de ces communards. Dans cette révolution, et en particulier la période paroxysmique, la terreur jacobine, les communards ont puisé une grande partie de leurs idées, ils ont puisé leur passion politique, ils ont puisé leur imaginaire, ils ont puisé leurs idées, leur conception de la patrie. Conception révolutionnaire de la patrie qui fait reposer l'appartenance à la patrie sur l'adhésion à des idées. Cette patrie révolutionnaire que Jean de Vigry a décrite dans Les Deux Patries, l'opposant à cette patrie traditionnelle fondée sur l'enracinement dans l'histoire et la géographie. Bon. Ils ont cette conception de la patrie avec la même excitation nationaliste qui est en découle et qui est un fruit de cette révolution. J'aurai l'occasion d'y revenir. Ils ont puisé dans cette révolution la passion de l'égalité, la volonté d'établir dans la société l'égalité la plus parfaite. Et à cet égard, les communards, pour les plus radicaux d'entre eux, souhaitent aller beaucoup plus loin que les révolutionnaires de 93. C'est l'égalité parfaite qu'ils veulent, et pas simplement une égalité en droit se combinant avec une relative harmonisation des conditions sociales. Ils veulent l'égalité parfaite. Beaucoup peuvent être qualifiés de communistes. Ils ont puisé également la conviction que la violence est le moyen d'expression politique le plus efficace. Et une méfiance à l'égard des modes d'expression politique institutionnalisés, à commencer par le vote. Voilà. Blanqui, dont nous dirons quelques mots tout à l'heure, qui est le chef de file des plus radicaux, Blanqui est un adversaire des élections et du vote. et un théoricien de l'action violente, des barricades. Voilà. Et puis, parmi les passions révolutionnaires qu'ils ont conservées, il y a l'anticléricalisme. L'anticléricalisme, cette hostilité de principe à l'égard du sacerdoce catholique, à l'égard du sacré, à l'égard de la transcendance. Voilà. Paris est depuis longtemps très déchristianisé. Déjà, Paris l'était en bonne partie à la veille de la Révolution française, et la Révolution a accentué cette déchristianisation. À Paris, au XIXe siècle, un habitant sur sept pratique, c'est-à-dire en proportion trois fois moins que dans le reste de la France. Voilà. À l'époque où en Vendée, pratiquement tout le monde va à la messe, pour donner une comparaison, un élément de comparaison qui permet de souligner le contraste de l'état d'esprit qui peut régner à Paris et dans les terres demeurées ferventes de l'ouest de la France. Alors, expression de cet témoignage, de cette influence de la Révolution française, les communards ont redonné vie au calendrier républicain. Le vieux calendrier républicain, avec Floréal, Germinal, Thermidor, ces noms de mois poétiques qui commençaient à l'équinoxe d'automne, qui commençaient l'année à l'équinoxe d'automne, qui la terminaient à la fin de l'été, ressurgit et est utilisé officiellement par la Commune de Paris, qui date tous les événements de l'an 79 de la République. Bien. Autre expression, à un moment où une sorte de vitalité journalistique, beaucoup de chefs communards sont des journalistes. Il y a beaucoup de journalistes à la tête du mouvement. Beaucoup de titres ressurgissent et parmi ces titres, un certain nombre font référence au passé révolutionnaire, la montagne, le salut public ou encore le Père Duchesne. Ce vieux journal ordurier qu'écrivait Jacques Hébert en 1793 et 1794, Jacques Hébert était le partisan de la terreur à outrance et de la déchristianisation totale. C'est le plus radical de ce monde révolutionnaire en 93. Bien, ce titre ressurgit en 1871 avec le même ton et la même agressivité antichrétienne, et ce journal est l'un de ceux qui a le plus de succès, le plus de lecteurs en 1871 à Paris comme en 1793 à Paris. Le nom même de Commune de Paris est puisé dans le passé révolutionnaire. Alors, la Commune de Paris, elle a duré un peu plus de 70 jours, commençant le 18 mars 1871 pour s'achever au mur des Fédérés le 28 mai 1871, au terme de cette semaine d'affrontement particulièrement sanglant qu'on a appelée la semaine sanglante. 70 jours pendant lesquels Paris échappe au gouvernement légal de la France. 70 jours pendant lesquels Paris a son propre gouvernement. Paris et ses abords immédiats ont leur propre gouvernement. 70 jours pendant lesquels la gauche révolutionnaire dispose à Paris d'un laboratoire pour expérimenté toutes ces utopies, de manière d'ailleurs un peu brouillonne. La Commune, elle commence le 18 mars 1871 par un soulèvement dirigé contre le gouvernement légal, dont le chef est Adolphe Thiers. Adolphe Thiers est un homme politique qui a marqué la vie politique française depuis 40 ans. Si on était un peu méchant, on dirait que c'est un vieux cheval de retour de la politique. Ça fait 40 ans qu'il en est. Il a commencé en 1830 comme journaliste en participant activement à la révolution qui a conduit au renversement de Charles X, au départ de Charles X. Il a été plusieurs fois ministre de Louis-Philippe, deux fois président du Conseil. Il a été deux fois président du Conseil il y a 40 ans. Il y a 30 ans, en 1840. Vous voyez, il n'incarne pas la jeunesse, la nouveauté, le renouveau. Non, il est là depuis longtemps. Il s'est lourdement trompé sur le compte de Louis-Napoléon Bonaparte. Ce n'était pas la première fois qu'il se trompait. Adolphe Thiers a à son actif quelques bourdes assez spectaculaires. Il avait notamment dit, quand il était président du Conseil de Louis-Philippe, « Le chemin de fer n'a aucun avenir en France ». Ça fait partie des bourdes. Et lorsqu'il avait voulu entraîner le Parti de l'Ordre à voter pour Louis-Napoléon Bonaparte à l'élection présidentielle de 1848, il avait eu à peu près ce raisonnement pour les entraîner. « C'est un crétin, j'en ferai ce que je veux ». Ça lui a valu 18 ans d'opposition. Donc Thiers n'est pas non plus connu pour sa clairvoyance politique. C'est un bourgeois orléaniste chimiquement pur. Voilà. Et il a été porté à la tête du gouvernement en 1871 parce que il bénéficie du prestige qui découle de l'effondrement du Second Empire. Comme il a été le chef de l'opposition libérale sous le Second Empire, que l'Empire s'est effondré, on cherche qui pourrait prendre en main les destinées du pays. Et évidemment, c'est vers lui, qui a incarné l'opposition pendant des années et des années, que l'on s'est tourné. Voilà. Et donc, c'est contre son gouvernement et contre la politique qu'il mène que les Parisiens se soulèvent le 18 mars 1871. Le comité central de la garde nationale s'installe à l'hôtel de ville, s'adresse à la population dans deux proclamations et convoque les électeurs parisiens pour élire un nouveau conseil de Paris le 26 mars suivant. On organise des élections 8 jours après. 8 jours après, on ne peut pas dire que ce comité central de la garde nationale soit soucieux de rester longtemps au pouvoir. Ils sont là pour peu de temps et ils s'empresseront de se retirer dès que ce conseil sera élu le 26 mars 1871. Le même jour, alors que le comité central de la garde nationale, c'est-à-dire les délégués des bataillons de garde nationale, s'est installé à l'hôtel de ville, le général Lecomte, qui, sur l'ordre d'Adolphe Thiers, était venu s'emparer des canons de la garde nationale, est capturé par des manifestants et fusillé. Quelques instants plus tard, un autre général, le général Clément Thomas, en civil, probablement se livrait à une mission d'observation, est lui aussi reconnu, arrêté et subit le même sort. Et leur assassinat a symbolisé la volonté de rupture entre Paris et le gouvernement. Le 26 mars 1871 ont lieu ces élections convoquées par le comité central de la garde nationale. des conseillers municipaux sont élus dans chacun des arrondissements de Paris. Ce nouveau conseil est installé 2 jours plus tard et le comité central de la garde nationale se retire devant lui sans pour autant disparaître complètement. Alors, ce conseil de la commune de Paris réunit des militants révolutionnaires d'horizons sociaux et idéologiques différents. Certains sont de vieux militants révolutionnaires qui ont participé aux sociétés secrètes depuis l'époque de la Restauration et à tous les mouvements de barricade depuis 1830. Beaucoup ont participé aux événements de 1848. Il y a des ouvriers, il y a des artisans, des commerçants, des employés, mais parmi les meneurs, il y a surtout beaucoup de journalistes. Beaucoup de journalistes, on retrouve toujours le rôle de cette bourgeoisie progressiste, de cette bourgeoisie intellectuelle au cœur de tous les mouvements révolutionnaires. Cette bourgeoisie intellectuelle, progressiste, qui prétend parler au nom du monde ouvrier. Par-delà la diversité des courants de pensée, des clubs, des tendances, il y a deux grandes tendances qui se sont rapidement dessinées. D'abord, une majorité constitué de républicains radicaux, de jacobins, qui se revendiquent comme tels, héritiers du comité de salut public de 1993, qui se revendiquent montagnards. Le titre de montagnard, la montagne, reste le drapeau de la gauche radicale tout au long du XIXe siècle. Parfois de néo-hébertistes, Père Duchesne, qui sont proches de Blanqui. Alors, Blanqui, il faut en dire un mot. Auguste Blanqui. Auguste Blanqui est un personnage qui jouit à l'époque, dans le monde révolutionnaire, d'un grand prestige. Il a derrière lui presque 50 ans de militantisme révolutionnaire. Dès l'époque de la Restauration, il était dans les sociétés secrètes, qui travaillait au renversement de la monarchie et de l'ordre social. Et très tôt, Blanqui s'est fait le théoricien de la violence politique, de l'insurrection urbaine et des barricades. Sa vie est assez facile à résumer. 35 ans de prison, entrecoupés de 5 ou 6 journées de barricades. Car aucun des gouvernements qu'il a voulu renverser, n'a eu le cœur de mettre fin définitivement à sa carrière. Donc on le jetait en prison, mais on ne l'a jamais condamné à mort. Voilà. Et donc, bénéficiant de la mansuétude et de Louis-Philippe et de Napoléon III, Blanqui est allé de cellule en cellule, où il a affiné ses réflexions et notamment il s'est fait le théoricien de la dictature du prolétariat. Voilà. La dictature du prolétariat, qui est l'un des aspects importants de la pensée marxiste-léniniste, a été en fait inventée par Blanqui. Marx, à l'origine, n'avait pas songé à cette dictature du prolétariat. Marx a adopté l'idée après l'échec de la Commune de Paris. Il l'a emprunté à Blanqui. Blanqui, pour le reste, est un communiste. C'est un communiste, c'est l'ancêtre du Parti communiste qui se réfère au-dessus de lui à la conjuration des égaux, Gracchus Babeuf. Donc il cultive les idées. Et avant Gracchus Babeuf, Jacques Hébert. Voilà. Jacques Hébert, Babeuf, Blanqui. Et ensuite, vous avez Lénine. Voilà. Alors, Blanqui est le, le maître à penser de toute une partie de ces communards, les plus radicaux. Voilà. Blanqui lui-même a été élu dans deux quartiers de Paris, le 20e et le 18e, si ma mémoire est bonne. Sauf qu'il ne peut pas siéger, parce qu'il n'est pas à Paris. Il était dans le Lot, se reposant chez un ami médecin. Et Thiers l'a pris de vitesse, l'a fait arrêter et l'a fait transférer en Bretagne, c'est-à-dire dans un endroit où on était sûr qu'il n'avait aucun partisan, pour l'aider. Et donc Blanqui est déjà en prison, frustré de ce qui aurait été probablement l'apogée de sa carrière de révolutionnaire. Voilà. Et les révolutionnaires parisiens réclament sa libération. Rendez-nous Blanqui. Raoul Rigaud, qui est un blanquiste, qui est le chef de la sûreté au sein de la commune, le président de la commission de la sûreté. Il n'y a plus de préfet, mais il y a des présidents de commission qui jouent le même rôle. Raoul Rigaud a proposé, au début du mois d'avril, à Adolphe Thiers, d'échanger Blanqui contre l'archevêque de Paris. Voilà. Vous nous donnez Blanqui et on vous rend en échange l'archevêque. Thiers a refusé. Thiers a refusé. Alors, on s'interroge encore sur les motivations d'Adolphe Thiers. Certains y ont vu un certain machiavélisme. Mais évidemment, il est difficile de sonder les reins et les cœurs. Voilà. Difficile de sonder les reins et les cœurs. Et donc, Thiers a refusé. Blanqui est resté en prison. Et Mgr Darbois est resté otage de la commune. Alors, face à cette majorité de républicains radicaux, de jacobins, de blanquistes, eh bien, il y a une minorité que l'on peut qualifier de socialistes humanitaires, avec toutes les nuances du socialisme français de l'époque, qui est une mosaïque dans laquelle il est difficile de se retrouver. Au XIXe siècle, lorsque vous avez trois socialistes autour d'une table, vous avez au moins deux courants et deux conceptions différentes du socialisme. Mais malgré tout, ces socialistes français restent encore très marqués par la pensée de Pierre-Joseph Proudhon, c'est-à-dire une conception anarchisante du socialisme. Proudhon était le théoricien d'une démocratie communale dont la Commune de Paris a fait la promotion. Voilà. Alors, cette minorité socialiste humanitaire, plus proudhonienne que marxiste, il n'y a pas encore de vrais marxistes à Paris dans ce monde socialiste. Même ceux qui sont en relation avec Marx, qui vont le voir, qui le tiennent informé, ne sont pas des vrais marxistes de stricte observance. La pensée marxiste est trop compliquée pour avoir beaucoup d'adhérents. En revanche, cette minorité, il est intéressant de noter qu'elle est hostile à la violence, hostile à la terreur. Ce sont eux qui, car ça fait aussi partie de l'histoire de la commune, sont allés chercher la guillotine pour y mettre le feu. D'un côté, on a des communards qui vont exécuter des otages, et de l'autre, il y en a d'autres qui vont mettre le feu à la guillotine. Vous voyez, il y a des courants très opposés au sein de cette commune. Ils sont hostiles à la guerre civile. Ils vont signer une déclaration contre la guerre civile le 15 mai 1871. Ce sont les partisans d'une démocratie communale. Il y a une part d'utopie dans tout ça, une part de rêve, une part... Alors, lorsque les heures deviennent difficiles et que les passions sont exacerbées par le danger, ces deux tendances vont être dressées l'une contre l'autre et la majorité va commencer à pointer du doigt la minorité en les qualifiant de girondins. Quand on se souvient ce qui est arrivé aux Girondins en 1793, la menace était directe et tout à fait redoutable. Alors, parmi les personnalités de cette commune, je vais en citer cinq. D'abord, Raoul Rigaud, que j'ai déjà évoqué, qui lui est un jeune homme, il a 25 ans. ce n'est pas un ouvrier, son père était conseiller de préfecture, donc il appartient à la bonne bourgeoisie. Il est journaliste, et au sein du conseil de la commune, il s'est retrouvé à la tête de la commission de sûreté, c'est-à-dire, en fait, à la tête du dispositif répressif. Voilà. Alors, il est mort sur les barricades, à proximité du Panthéon. Il faut citer l'écrivain Jules Vallès. Jules Vallès, qui, comme Rigaud, était franc-maçon. Bon. Sauf que Jules Vallès lui appartient plutôt à la tendance socialiste fédéraliste. Jules Vallès nourrit un journal qui s'appelle Le Cri du Peuple, qui a un grand écho à Paris en 1871. Il faut citer Louis Rossel. Alors Louis Rossel, c'est un militaire, il est colonel, fils d'officier supérieur, issu d'une famille protestante des Cévennes. Il est le délégué à la guerre. Voilà. Lui se concentre sur la défense de Paris face aux Versaillais. Il a fini fusillé à Satory. Et puis, deux hommes politiques comme Adolphe Thiers, ne sont pas des perdreaux de l'année. Félix Piat, d'abord, bon, né en 1810, ancien commissaire de la République en 1848, dans le Cher, commissaire de la République, c'est-à-dire préfet. Il a été l'équivalent de préfet lors de la révolution de 40, après la révolution de 48, ce qui lui a permis d'être élu député. Il a déjà plusieurs mandats de député à son actif, du Cher, 48, 49, 71. C'est un vieux politicien, républicain franc-maçon, qui trouvera le moyen, juste avant la semaine sanglante, de faire ses bagages, de quitter Paris, de quitter la France, et une fois l'amnistie obtenue en 1880, de revenir et de reprendre sa carrière politique, et de retourner au Sénat. Voilà. Il y a aussi ce personnel-là dans le monde de la commune, c'est-à-dire des vieux républicains qui sont dans le militantisme depuis 40 ans et qui ont déjà exercé des fonctions importantes lors de la Révolution de 48. Et puis Charles de L'Écluse. Charles de L'Écluse, il a le même profil, mais il est moins habile. Il est moins habile. Il a été lui aussi commissaire de la République en 1848. Sauf que lui, il n'a pas réussi à se faire élire député. Il a fallu qu'il attende 1871. C'est un jacobin, plus idéaliste que Félix Piat. Lui, il est resté en 1871, et d'ailleurs, il est mort sur une barricade. Voilà. Alors, quelles sont les motivations de ce soulèvement? La Commune de Paris est inséparable de la guerre franco-prussienne de 1870, et du terrible siège qu'a supporté Paris pendant 4 mois, du 20 septembre 1870 au 28 janvier 1871. Paris a non seulement été assiégé pendant 4 mois, avec toutes les difficultés de ravitaillement que cela implique, la pénurie qui devient la disette, qui devient la famine, les chiens, les chats et les rats qu'on retrouve sur les étals. Voilà, ça c'est ce qu'ont vécu les Parisiens. Et en plus, ce n'est pas un siège d'été, c'est un siège d'hiver. Donc non seulement on a faim, mais on a froid. Et on crève de froid. Il est clair que ce siège de 4 mois, avec des bombardements évidemment, avec une menace, a engendré une tension très forte. Une tension qui s'est exprimée à plusieurs reprises par des manifestations assez vives au cours du siège. Or, ces pénuries, non seulement elles ont créé une tension, mais elles ont aggravé considérablement la misère des plus pauvres. Non seulement des plus pauvres, mais aussi de la classe moyenne. Bonne partie des Parisiens ont connu des semaines très très difficiles pendant l'hiver 70-71 en étant coupés du reste du monde. Or, Lors de la capitulation signée par le gouvernement d'Adolphe Thiers, celui-ci a accepté que l'armée allemande, puisque le Reich allemand a été proclamé à Versailles, que l'armée allemande, qui n'avait pas réussi à prendre Paris, entre dans Paris et défile sur les Champs-Élysées. Alors ça, pour les Parisiens, ça a été quelque chose de terrible. C'était manifester à l'égard des sacrifices qu'ils avaient consentis pendant 4 mois un mépris révoltant. Ils avaient finalement supporté tout ça pour rien. Si finalement ils avaient ouvert leurs portes le 21 septembre 1870, ils auraient été à peu près au chaud, ils auraient été nourris à peu près correctement, et de toute manière le résultat aurait été le même puisque l'armée allemande aurait défilé dans Paris. Ça, c'est ce défilé du 1er mars 1871 a été très difficile à digérer. Et dans la déclaration adressée aux Français le 19 avril 1871, la Commune dénonce ceux qui ont livré Paris à l'étranger. C'est l'un des arguments. Il y a d'abord, dans la Commune de Paris, une réaction patriotique. Mais patriotique dans l'esprit, et c'est pourquoi je vous parlais du patriotisme révolutionnaire tout à l'heure, dans l'esprit de ce nationalisme révolutionnaire que l'on a vu à l'œuvre pendant la Révolution française, avec les volontaires de 1792, la Marseillaise, le chant du départ, les bataillons qui se constituent, qui volent aux frontières. C'est ce patriotisme-là, et un patriotisme qui est profondément idéologique, c'est-à-dire qui se considère inséparable de la cause de la Révolution, de la cause de la République. Être patriote, c'est être révolutionnaire, c'est être républicain. Et par conséquent, ceux qui ne sont pas républicains ou qui ne sont pas révolutionnaires ne peuvent pas être des patriotes. Voilà. Et par conséquent, il est normal qu'ils aient voulu négocier la paix, quel que soit d'ailleurs l'état militaire du pays. Voilà. D'autre part, sitôt la paix revenue, sans attendre, le gouvernement Thiers a abrogé plusieurs des mesures sociales qui avaient été prises par le gouvernement impérial au début de la guerre, en août 1870, notamment le moratoire sur les loyers. Voilà. Dès le mois de mars, le moratoire est suspendu. Donc, ces ouvriers, ces commerçants, ces artisans, ces employés qui sortent de semaines très difficiles, dont l'activité n'a pas encore repris, vont devoir, dès ce mois de mars 1871, acquitter leurs obligations vis-à-vis de leurs propriétaires. C'était leur mettre le couteau sous la gorge, clairement, et tout cela a exacerbé les tensions. Et puis enfin, la Commune de Paris a été une réaction politique contre la victoire électorale remportée lors des élections générales du 8 février 1871 par la droite monarchiste. Les monarchistes, orléanistes, légitimistes ou monarchistes sans préférence dynastique particulière, ont remporté une très large majorité portée par le vote des campagnes. Il y a clairement là une opposition entre Paris et les provinces qui est exacerbée, sauf que Paris, qui a l'habitude de donner le ton depuis 1789, se retrouve dominé par les provinces et n'a pas cette habitude. Voilà. Alors, les Parisiens qui vont faire la Commune de Paris, qui sont les mêmes qui ont profité de la capitulation de Sedan pour renverser l'Empire et pour proclamer la République le 4 septembre 1870, entendent se prémunir contre cette restauration de la royauté qu'ils redoutent. Ils ont pour la République un attachement total, exclusif, intransigeant. La République est pour eux le seul régime possible. Ils le disent d'ailleurs dans la proclamation, du 19 avril 1871, dont nous reparlerons tout à l'heure. Ce que les communards, ce dont ils n'ont pas conscience, c'est que ce n'est pas parce que la droite monarchiste a remporté les élections que la restauration est pour demain. Voilà. Les choses sont beaucoup plus compliquées que cela. Le comte de Chambord, petit-fils de Charles X, Henri V, a beau être à l'étranger, il est beaucoup plus lucide sur la situation. Il sait très bien que la victoire électorale des monarchistes ne met pas la restauration à l'ordre du jour. Voilà, il y a énormément d'obstacles. Et d'abord, Adolphe Thiers. Adolphe Thiers, qui est avant tout un libéral, qui est parfaitement indifférent à la forme du régime, et qui est surtout très hostile à la royauté chrétienne traditionnelle. Adolphe Thiers était le ministre de l'Intérieur à l'époque de l'expédition de la duchesse de Berry en Vendée. C'était il y a presque 40 ans. Vous voyez, c'est le même personnage. C'est le même personnage qui a travaillé au renversement de Charles X. Ce n'est pas pour accueillir Henri V, son petit-fils. Voilà. Adolphe Thiers va tout faire pour empêcher cette restauration. Et les grands notables monarchistes, orléanistes et même un certain nombre de légitimistes finalement ne tiennent pas tant que ça à une restauration. Ce qu'ils voudraient, c'est un gouvernement de grands notables conservateurs, mais sans avoir à courber la tête devant un roi, d'une part, et puis sans avoir besoin de trouver une conciliation avec les idées de ce roi. Henri V a des idées sociales très généreuses qu'il a décrites dans la lettre aux ouvriers. Il a une politique sociale, il est soucieux de la misère ouvrière, il veut y trouver des remèdes. Les grands notables orléanistes trouvent ça très dangereux. Tout cela va traverser nos intérêts. Il n'est pas question d'amener sur le trône un prince qui a de telles idées. Et donc, ils vont, comme vous le savez, lui imposer des conditions très dures, c'est-à-dire, en fait, l'acceptation des principes de 89, l'acceptation de la Révolution, des conditions inacceptables pour lui qui rendront la restauration impossible. Et Henri V répondra, je ne serai pas le roi de la Révolution. Voilà. Donc, il ne sera pas roi. En fait, de manière assez curieuse, sur la question de la République, les communards n'ont pas conscience qu'ils sont beaucoup plus proches de Thiers qu'ils ne l'imaginent. Ils veulent la République et Thiers aussi veut la République. Pas la même, mais ils veulent les uns et les autres la République. Et ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que Thiers va fonder la République en la cimentant avec leur sang à eux. Voilà. Les 17 000 morts de la répression de la Commune de Paris en mai-juin 1871, cette répression est terrible. 17 000 morts, c'est considérable. Ces 17 000 morts ont cimenté la République parce qu'ils ont montré à la bourgeoisie et à la paysannerie de province que finalement la République, ce n'était pas le régime de l'aventure et du désordre. Que la République, ça pouvait être l'ordre et la stabilité, et que la République pouvait défendre avec fermeté l'ordre établi, et donc la propriété. Vous voyez, beaucoup plus fermement que ne le ferait n'importe quel roi. On a à cet égard une formule de Louis-Philippe qui était tombée parce qu'il y avait eu 3 morts lors des manifestations de février 48. Ça avait conduit à son abdication. Juin 48, 4 mois plus tard, pour ramener l'ordre, la République sacrifie 6 000 personnes. On est loin des 3 morts. Et Louis-Philippe a eu ce mot un peu désabusé en apprenant ce qui s'était passé. La République a de la chance, elle peut faire tirer sur le peuple, elle. Voilà. La parole, c'est une parole assez profonde. Ce que Cavaignac a fait en 1848, ce que Thiers a fait en 1871, Henri V ou Louis-Philippe ne l'auraient jamais fait. Voilà. Parce que c'est contraire à l'esprit du gouvernement royal. Voilà. Et Thiers démontre à une bourgeoisie, une paysannerie qui redoute les rouges, qui est soucieuse de l'ordre, de la propriété, de la stabilité, que finalement, le régime qui peut garantir tout ça, c'est la République, bien plus que la monarchie. mais ça va être cimenté avec le sang des communards. Alors, le programme politique de la Commune de Paris fut énoncé dans cette déclaration au peuple français publiée le 19 avril 1871. En premier lieu, la reconnaissance et la consolidation de la République, seule forme de gouvernement compatible avec les droits du peuple et le développement régulier et libre de la société. C'est le premier point, la défense de la République. En deuxième lieu, l'autonomie absolue de la commune étendue à toutes les localités de France. La démocratie communale, c'est-à-dire un régime de subsidiarité en rupture avec la centralisation administrative mise en place par le comité de salut public et consacrée par Napoléon à partir de 1800. Ce deuxième point illustrait bien d'ailleurs l'influence des socialistes proudhoniens dans le mouvement de la Commune. Cette révolution communale, elle prétendait inaugurer une ère nouvelle de politique expérimentale, positive, scientifique. Il y a toujours une prétention à la rigueur et à l'infaillibilité scientifique dans les utopies totalitaires. Et puis ce programme politique exprimait également un ton manichéen de table rase du passé. Je cite, « C'est la fin du vieux monde gouvernemental et clérical, du militarisme, du fonctionnarisme, de l'exploitation, de l'agiotage, des monopoles, des privilèges auxquels le prolétariat doit son servage, la patrie, ses malheurs et ses désastres. » On fait table rase du vieux monde. Remarquez au passage l'adjectif clérical qui désigne bien l'une des cibles, l'Église. La perspective dressée est assez inquiétante, elle est apocalyptique. La victoire ou la ruine, la victoire ou la mort. Ce combat ne peut finir que par le triomphe de l'idée communale ou par la ruine de Paris. On est le 19 avril 1871, déjà se dessine la menace de la destruction de la ville en cas de défaite. L'incendie de la plupart des grands monuments parisiens. Notre-Dame elle-même n'a échappé à cet incendie que miraculeusement, parce qu'il y avait des artistes communards qui, nourris de leur sens esthétique, se sont opposés à l'incendie de Notre-Dame de Paris. C'est ce qui a sauvé Notre-Dame de Paris. Voilà. C'est le seul monument important qui n'ait pas été brûlé. Le Louvre aurait dû brûler. Le Louvre a été sauvé de justesse. Voilà. Alors, nourris du souvenir et de l'imaginaire révolutionnaire, les plus radicaux des communards, matérialistes et athées, ne cachaient pas leur hostilité à l'Église, au sacerdoce, à la transcendance, au sacré. Cette hostilité n'a pas attendu la semaine sanglante pour s'exprimer. Elle fut entretenue par la presse révolutionnaire, par le cri du peuple de Vallès, par exemple, ou par le père Duchesne, qui diffusait contre l'Église, contre les prêtres, des mensonges, des calomnies et des menaces. L'influence de la franc-maçonnerie au sein de la Commune a contribué à cet antichristianisme. Jules Vallès, dans le cri du peuple, appelait le 2 mai 1871 à une croisade maçonnique. Curieuse formule. Tandis que les francs-maçons avaient accaparé l'archevêché de Paris, où ils avaient installé leur séance. Leur cérémonie pendant la Commune avait lieu dans la chapelle de l'archevêché. Alors, dès son entrée en fonction, la Commune de Paris a pris des mesures anticléricales. Ainsi, le décret du 1er avril 1871, publié le lendemain 2 avril, a proclamé la séparation de l'Église et de l'État, la suppression du budget du culte et la nationalisation des biens appartenant aux congrégations, meubles et immeubles. Cette confiscation a servi de prétexte au cours des semaines qui ont suivi à de nombreuses perquisitions dans les églises ou dans les couvents qui ont souvent dégénéré en pillage, comme à l'église Saint-Roch, aggravées par l'arrestation de religieux, de religieuses, de prêtres, qui ont été enfermées aux quatre coins de Paris. Certaines églises ont été fermées, d'autres transformées en salles de réunion pour les clubs révolutionnaires. Il y avait, par exemple, à l'église Saint-Germain d'Auxerrois, un club de libre-penseurs qui tenait séance. Alors, quelques exemples. Le 4 avril, pillage du couvent des Dominicains de la rue Jean de Beauvais. Le 13 avril, 13 prêtres âgés furent arrêtés à Picpus et conduits à pied sous les menaces et les coups à la conciergerie. Le même jour, la maison des petites sœurs des pauvres du quartier de Picpus fut elle aussi visitée. Le 5 mai, toute la communauté des religieuses de Picpus, soit 91 personnes, furent conduites à la prison de Saint-Lazare, parmi lesquelles une dizaine a été relâchée quelques jours plus tard sur intervention du ministre des États-Unis, M. Washburn. De nombreuses paroisses ont elles aussi été attaquées, leurs curés arrêtés, leurs portes fermées, comme à Montmartre le 9 avril, où l'abbé Olivier est conduit à la conciergerie. Sur la porte de l'église fut placardée cette affiche qui exprime bien les passions antichrétiennes qui nourrissaient certains communards. Je cite « Attendu que les prêtres sont des bandits et que les églises sont des repères où ils ont assassiné moralement les masses en courbant la France sous la griffe des infâmes Bonaparte, Fabre et Trochu, le délégué civil des carrières près l'ex-préfecture ordonne que l'église Saint-Pierre de Montmartre soit fermée et décrète l'arrestation des prêtres et des ignorantins. Le 16 avril, perquisition violente à Saint-Jacques-du-Haut-Pas, où les fidèles sont chassés de l'église à coups de crosse. Le 19 avril, l'église de la Madeleine est à son tour envahie. En cette circonstance, un communard de Lancé, les prêtres sont les bourreaux du peuple, il faut tous les fusiller. On est le 19 avril, on est un bon mois avant la semaine sanglante, le ton est déjà donné, fusiller les prêtres. Menace qui laissait mal augurer de ce qui allait arriver à ceux qui avaient été emprisonnés. Gustave Marotto, qui est le rédacteur en chef du Salut public, écrivait à cet égard « Il faut que M. Thiers le sache, nous avons pris Darbois, Monseigneur Darbois, l'archevêque de Paris, pour otage, et si on ne nous rend pas Blanqui, il mourra. » Bon, voilà, les choses sont claires. On ne peut pas dire que la mort des otages, et en particulier celle des prêtres retenus en otage, est un simple dérapage survenu à un moment d'effervescence, de combat, alors que la défaite menaçait, de la part de personnes qui n'étaient plus tout à fait maîtres d'elles-mêmes. Non, tout cela a été, par les plus radicaux, prémédité, voulu par eux, comme une expression ultime de leur haine de la foi et du sacerdoce catholique. Et tout cela montre bien que les prêtres assassinés pendant la Semaine Sainte sont bien morts en haine de la foi. Je vous remercie.
Nous pouvons remercier M. Philippe Pichot pour ce bon exposé sur la Commune de Paris qui montre à la fois comment elle s'est constituée, les courants qui avaient cours parmi les communards et cette radicalisation de l'anticléricalisme. C'est un bon exposé qui permet de comprendre la fin glorieuse du père Planchin. Voilà, donc parmi les 5 prêtres qui ont été béatifiés le 22 avril dernier à Saint-Sulpice de Paris, il y a des frères de Saint-Vincent de Paul, le père Marie, Mathieu, Henri, Planchat. Donc, il est né à Bourbon-Vendée, La Roche-sur-Yon, le 8 novembre 1823. Il est l'aîné de 4 enfants. Il est baptisé à l'église paroissiale, je suppose, de Saint-Hilaire. Le 3 janvier 1824, par l'abbé Jean-Louis Mazières, qui était curé depuis 1820. J'ai fait une petite recherche sur le père Mazières. Donc, ce père Jean-Louis Mazières a été, pendant la Révolution française, il a prêté le serment. Il était curé constitutionnel de Montournay en 1790. Ensuite, il s'est rétracté et il sera réhabilité par l'évêque de La Rochelle. Il est nommé à Bourbon-Vendée comme vicaire de l'abbé Chapeau et il deviendra curé en 1820. Et il va mourir en 1826. Voilà, donc c'est lui qui baptise le petit Mathieu Henri Planchat. Le père du père Planchat est magistrat. Il est au tribunal d'instance quand le petit naît. Il a 33 ans, sa maman a 19 ans. Tous les deux sont foncièrement chrétiens. La fidélité familiale à la foi catholique est totale. Le grand-père d'Henri a caché pendant la terreur 14 prêtres. Et 3 enfants, Planchat, deviendront religieux. Donc, il y a donc l'aîné, c'est Henri. Ensuite, il y a une fille, Virginie, qui va devenir fille de la charité et qui sera là dans pratiquement tout le temps à Constantinople. Ensuite, il y a Maria, qui sera chanoinesse de Saint-Augustin à Moulins et ensuite en Belgique. Et le frère de Henri Planchat, le dernier, le frère de Benjamin, qui s'appelle Eugène, qui lui va se marier. Voilà, au sein de ce foyer familial, qui, au gré de la mutation du père, va beaucoup se déplacer, de La Roche à Chartres, puis à Lille, donc au sein de cette famille, Henri reçoit une très bonne éducation. Son père lui donne l'amour de l'étude, la fidélité au devoir d'État. Sa maman lui communique sa foi rayonnante. Elle lui apprend à voir dans les pauvres les amis de Jésus. Si bien que le petit Henri réserve ses desserts pour les pauvres. Et un jour, Nini, sa petite sœur, découvre la cachette et prend les bonbons. Alors Henri se fâche un peu, mais en fait il explique à Virginie ce que c'est que cette petite réserve de gâterie. Et du coup, il va mettre sa sœur dans le cou et elle aussi va faire pareil. Bon, Madame Planchat appelle Henri son petit Vincent de Paul. Mais ce petit Vincent de Paul au cœur d'or, qui aime le Saint-Sacrement, qui aime la Vierge Marie, qui a fait sa première communion à 12 ans, il doit être corrigé de son entêtement et de ses colères. À 14 ans, le voici interne au collège Stanislas à Paris, puis à celui de Vaugirard, tenu par les jésuites. Il découvre là la vie intérieure. Il réussit très bien ses études. Il obtient son baccalauréat en août 1842, l'année où son père est envoyé à Oran. Lui commence le droit à Paris. Il organise son temps pour ne jamais perdre même un quart d'heure. Et il fait tout un travail sur lui-même pour dominer son irritabilité par la douceur. Si au début de l'année 1843, donc il a 20 ans, qu'il découvre la Société de Saint-Vincent de Paul, qui a été fondée il y a 10 ans. Il s'inscrit à la conférence de la paroisse Saint-Lambert, actuellement dans le 15e arrondissement de Paris, pour visiter les pauvres. Et l'aumônier de cette conférence lui fait découvrir le monde de la misère et lui communique l'intelligence du pauvre. À ce moment-là, il lit la vie de Saint-Vincent de Paul et cette lecture lui communique l'idée de devenir comme Saint-Vincent de Paul. Il va écrire « Je dois me proposer d'imiter comme Saint-Vincent de Paul la vie de Jésus-Christ ». Et c'est là que se lève en lui le désir d'être prêtre. À la fin de sa première année de droit, il obtient de l'archevêché de Paris son entrée au séminaire Saint-Sulpice. Mais le papa, M. Planchat, lui dit non. Tu dois d'abord terminer ton droit. Donc, il va attendre et c'est en 1845 qu'il rencontre Jean-Léon Le Prévôt, Clément Millonnet, Maurice Maignan, trois confrères de Saint-Vincent de Paul qui ont fondé, le 3 mars 1845, la communauté des frères de Saint-Vincent de Paul. Donc, les trois confrères lui parlent du patronage, de la rue du Regard, où sont reçus des apprentis patronnés par la société de Saint-Vincent de Paul pour être évangélisés. Du coup, il est conquis par cela, il devient membre actif de l'œuvre, et il mesure la détresse de ces garçons, soumis à un dur travail, plongés dans l'immoralité, fiers quand ils font le mal, repentis quand ils font le bien. Quand il est licencié en droit, en août 1847, il entre au séminaire Saint-Sulpice. Son papa est d'accord. Convaincu que le prêtre doit être bien formé, il étudie avec soin la philosophie, la théologie, l'écriture sainte, l'histoire de l'Église. Et sa formation spirituelle au séminaire lui fait comprendre que l'âme de l'activité apostolique, c'est la charité intérieure. C'est-à-dire que la foi, elle ne peut être ranimée que par la sainteté du prêtre. Il est ordonné prêtre le 21 décembre 1850. Le 24 décembre suivant, il quitte le séminaire pour entrer chez les frères de Saint-Vincent de Paul. Décision audacieuse, puisque dans la nouvelle communauté qu'il rejoint, il n'y a que des frères. Tout donné à Dieu pour évangéliser les pauvres et les ouvriers, alors que lui est prêtre. La décision, sa sœur Virginie ne la comprend pas. Elle, qui a souvent entendu son frère admirer les missionnaires morts, martyrs, il répond « Si, comme moi, tu avais parcouru la banlieue de Paris, si tu avais vu la profonde ignorance et toutes les misères morales de ce pauvre peuple, tu conviendras que cela vaut bien la Chine. » Donc la communauté des frères de Saint-Vincent de Paul, évidemment, se réjouit de la venue de ce prêtre, étant donné que le but des frères, c'est précisément d'amener les âmes à Dieu. Donc le ministère du prêtre est essentiel. La première obédience qu'il a, c'est Grenelle, au sud-ouest de Paris. À l'époque, 8 000 habitants, dont 80% vivent dans le dénuement parce que de nombreuses usines ont fermé. Il est aumônier du patronat d'une soixantaine d'apprentis. Il se dévoue au fourneau de Saint-Vincent-de-Paul qui nourrit 300 à 400 personnes par jour. Il visite inlassablement les familles, il pénètre partout. Il se fait chasseur d'âmes en allant au-devant des pauvres qui ne vont plus à l'église. Aucune misère, aucune moquerie ne le décourage. Il découvre la condition misérable de la famille ouvrière, sans défense, écrasée de travail. Les enfants et les jeunes travaillent entre 8 et 12 heures par jour. Les hommes travaillent entre 16 et 17 heures par jour. Les femmes travaillent de jour et de nuit. Mais voilà que, épuisé par son dévouement, le père Planchat, surmené, doit s'éloigner de Paris. Donc pendant plusieurs mois, il va marcher au grand air, en particulier en Italie. Il va guérir de cette espèce de burn-out le jour de la Saint-Vincent-de-Paul, 1852. Alors, il reprend son apostolat, un apostolat qui est nourri par l'oraison. Il écrit « Point de charité du prochain sans esprit d'oraison. Point de volcan sans un feu intérieur. Point d'esprit d'oraison sans exercice sérieux de la méditation. » Sa devise, c'est « Sans parole à Dieu, une seule aux hommes. » Après 2 ans à Arras, il est nommé, en 1860, aumônier du patronage de Sainte-Anne, dans le 20e arrondissement de Paris, le quartier de Charonne, où la population ouvrière, nombreuse, connaît la misère décrite ci-dessus. Il est aidé par un frère et par des confrères de Saint-Vincent-de-Paul. Tous les jours, il ne peut pas résider à Sainte-Anne, à Charonne, il réside à Grenelle. Donc tous les jours, il fait le trajet à pied de Grenelle jusqu'à Charonne le matin et il revient le soir. Il connaissait le breviaire par cœur, il disait son breviaire en marchant. Il va avoir un patronage qui va compter 400 jeunes en 1870. Il va instituer là l'œuvre de la première communion des retardataires pour les adultes. Il multiplie les visites auprès des familles pauvres. Il ouvre un fourneau économique pour nourrir les familles pendant le siège de Paris, dont M. Pichot nous a parlé, avec cette grande misère, le froid intense et le manque de nourriture. Il organise des retraites, des prédications, il va régulariser beaucoup de mariages et il va créer une mission pour les nombreux ouvriers italiens de ce qu'on appelait la cité des singes. À la veille de la commune, le patronage de Sainte-Anne de Charonne est devenu une mission permanente associant au service du peuple les laïcs et les prêtres. Une belle communauté ouvrière s'est constituée. Un grand nombre d'enfants, 400 apprentis et jeunes ouvriers sont assidus. Les familles du quartier affluent à Sainte-Anne. Soudain, la guerre éclate avec la Prusse. Le 19 septembre, les Prussiens assiègent Paris. Jusqu'au 28 janvier, comme on l'a rappelé, où ils signaient l'armistice. Durant le siège, le père Planchat se fait mendiant pour les gens tenaillés par la faim et démoralisés, pour les familles ouvrières condamnées et victimes du chômage. Il y a une ambulance établie à Sainte-Anne pour les blessés et bientôt pour les soldats désœuvrés. On organise à ce moment-là le patronage des soldats, des mobiles, et le père Planchat devient le curé mobile. Les militaires vont venir très nombreux, malgré l'opposition d'un de leurs officiers supérieurs. On note dans le journal de la communauté que le 7 février, il y a à peu près 8 000 militaires qui sont venus au patronage. Et sur ce nombre-là, le travail des prêtres a été tel que 5000 d'entre eux se sont préparés à la communion. En même temps, pendant le siège de Paris, avec un autre prêtre, le père Planchat, la nuit, va sur les champs de bataille confesser et extrémiser les blessés. Le 28 février 71, il écrit « Ma santé s'altère par l'excès de travail. 4 heures de sommeil en moyenne par nuit depuis le 19 septembre. » Donc éclate le 18 mars l'insurrection de la Commune de Paris. Le gouvernement se retire à Versailles. Le comité central s'installe à l'Hôtel de Ville de Paris. Donc M. Pichot a bien expliqué ce que comporte ce comité central avec les blanquistes. Et Raoul Rigaud, 25 ans, féroce anticlérical, spécialisé dans la chasse aux curés. Tous les groupes de la commune sont unanimes sur la question religieuse. Nier Dieu, c'est tuer le prêtre et la religion. Nous ne croyons pas à Dieu. La révolution de 1871 est athée. Raoul Rigaud a le poste qui lui permet de mener la lutte contre l'Église. C'est lui qui lance les mandats d'arrêt le mardi saint contre l'archevêque, Monseigneur Georges Darbois. Le père Planchat, si influent sur la population ouvrière de Charonne pour la ramener à Dieu, est particulièrement visé. Le jeudi saint, 6 avril, il est arrêté alors qu'il est en train de distribuer les vêtements pour la première communion de Pâques. Il prend son bréviaire et il sort encadré par les fédérés. Il est emmené à la mairie du 20e. Il passe la nuit, du jeudi au vendredi saint, grelottant de froid dans une toute petite pièce. Le vendredi saint, il est mis en cellule au dépôt de la préfecture de police. Il va rester tout seul, là, jusqu'au jeudi de Pâques, le 13 avril. Ce jour-là, le 13 avril, avec d'autres prêtres, il est transféré à la prison de Mazas, à la cellule 11. Ils vont demeurer là 39 jours jusqu'au 22 mai. Il écrit aux enfants du patronage. Le prisonnier est dans son étroite cellule voûtée comme l'oiseau dans sa cage. S'il veut prendre de l'exercice, il faut qu'il sautille de long en large. Et on comprend que la détention soit particulièrement pénible pour lui, étant donné sa nature ardente, bouillante, habituée à la plus intense activité. Le dimanche 21 mai, les troupes de Versailles entrent dans Paris pour la reprendre à la Commune. Commence donc la semaine sanglante. Les prisonniers deviennent otages. Raoul Rigaud fait transférer de Mazas à La Roquette les 54 détenus, dont 25 prêtres. Il s'écrit « Nous avons des otages, parmi eux des prêtres. Frappons ceux-ci de préférence. » Dans la voiture, le père Planchat se trouve à côté du père Olivain, un jésuite, et tous les deux se confessent mutuellement. Le 23 mai, lors d'un temps de rencontre, les prêtres partagent entre eux les hosties consacrées et chacun fait le sacrifice de sa vie. Le père Planchat écrit « Nous sommes bons à fusiller d'un moment à l'autre. Nous avons pu nous confesser. Notre sacrifice est fait. » Le 24 mai au soir, Monseigneur Darbois et 5 autres otages sont fusillés. L'incendie brûle l'hôtel de ville. Le 25 mai, pendant le temps commun à la prison, le père Planchat confesse les otages laïcs. Le vendredi 26, l'avant-veille de la Pentecôte, le colonel Goua se présente à la Roquette avec une troupe pour réclamer les otages à fusiller. Il dicte le nom de 10 ecclésiastiques, de 36 gendarmes et de 4 civils. Le cortège sort de la Roquette, c'est pas loin du cimetière du Père-Lachaise, avec une troupe et donc ils s'en vont vers 4h30 de l'après-midi. Ils vont parcourir 3 km jusqu'à la rue Axo et la cité de Vincennes, où les chefs de la commune se sont réfugiés. J'ai fait déjà ce trajet là, qui passe en plein quartier populaire et une route qui monte pas mal. Tout au long du trajet, la foule se déchaîne en cris menaçants et en insultes. Le père Planchat est profondément recueilli. Il est tellement absorbé dans son recueillement qu'il ne remarque pas un enfant du patronage qui s'avance pour lui dire adieu. Arrivé à la rue Axo, le colonel Goua demande au chef de la commune quoi faire des otages. On lui répond « C'est toi qui les as amenés ici, nous n'avons aucun ordre à te donner. » Le colonel Goua s'adresse à la foule « Citoyens, que faut-il faire aux otages ?» La foule répond « À mort !» Alors on pousse les otages vers un muret devant un grand mur. On fait monter les otages sur le muret. Le père Planchat supplie d'épargner les pères de famille. Il s'offre à mourir à leur place. Le signal de la fusillade est donné par une femme, le capitaine Pigère, qui décharge son revolver sur le père Planchat en le manquant. Mais c'est le signal de la fusillade. Elle va durer une demi-heure. Un ouvrier, Nicolas Schmitt, alors âgé de 17 ans, qui était au patronage, a témoigné de la mort du père Planchat. Elle est montée en haut d'un mur d'enceinte et il a regardé toute la scène. Donc il raconte que le père Planchat a reçu 7 ou 8 balles. À chaque fois, il tombait, il essayait de se relever. Et une dernière balle l'a frappé en plein front. Et Nicolas Schmitt témoigne, « Je le vois encore, levant les yeux au ciel, joignant les mains et tombant sur le côté. » On peut dire que le bon pasteur avait donné sa vie pour ses brebis. Il a 48 ans. Le lundi de Pentecôte, les corps des victimes, jetés dans une fosse commune, sont identifiés. Celui du père Planchat est emmené au cimetière de Vaugirard avant d'être placé au sanctuaire de Notre-Dame de la Salette, où il est toujours. Il y a eu 2 reconnaissances de son corps. En 1959 et en 2017. En 2017, le médecin légiste écrit à l'ouverture du cercueil, sous le linceul qui a pris la forme de son corps, on constata que son corps était encore intact, que ses yeux étaient toujours ouverts, regardant vers le haut. Il a reçu, continue le médecin, 8 impacts de balles au flanc, au bras, sur une jambe et finalement en plein front. De plus, il a reçu des coups d'arme blanche, sûrement une baïonnette ou un sabre, sur les bras et sur le crâne. Je termine en disant que, en citant Tertullien, le sang des martyrs est semant de chrétiens. Le capitaine Pigère, cette femme qui a donné le signal de la fusillade, elle s'appelle en fait Félicie Gimet. Elle est de Roanne. En 71, elle a 36 ans. Elle est devenue hostile à la foi religieuse, alors qu'elle a été éduquée chrétiennement. Mais en abandonnant la foi, elle conserve la charité pour les malheureux et la dévotion à la Vierge Marie. Elle a repris une fois un jeune communard à Lyon qui insultait la Vierge. Il a dit « Non, tu n'insultes pas notre mère. » Elle a vu le curé d'Ars en curieuse. Le curé d'Ars lui a dit « Vous ferez beaucoup de mal, mais vous vous convertirez. » Ça l'a fait rire. Elle a tué 13 prêtres au moment de la fusillade. Elle s'est, en tout, hein, non seulement le 26 mai, mais avant, elle s'est acharnée sur le père Olivain. Après la commune, elle est dans une prison pour femmes. La supérieure va travailler à sa conversion. Elle va lui remettre les écrits du père Olivain. Et touchée par la grâce, elle va devenir elle-même religieuse. Avant de mourir, elle dit « Je me suis jetée tout entière dans les bras du bon Dieu, que puis-je avoir à redouter ?» Je vous cite un autre texte qui est du bras droit de Raoul Rigaud. Il écrit ceci « Tous les moyens à la disposition du parti clérical ont été mis en œuvre. Conférences dans les églises, distribution de secours, généralisation des patronages religieux. Ce procédé a été, il faut le reconnaître, un des plus efficaces. Les cléricaux militants se sont montrés supérieurement intelligents dans cette organisation systématique de la mainmise sur l'adolescence. Ils ont compris le besoin d'indépendance et de gaieté qui s'emparent des jeunes gens au sortir de l'école et ils ont adapté leur patronage aux besoins à satisfaire. Or, pour répondre à cet effort considérable et méthodique, pour neutraliser ses effets, qu'avons-nous entrepris, nous, les communards ? Rien ou presque rien. Si la situation est devenue dangereuse, ne nous en prenons donc qu'à nous-mêmes et voyons à réparer les fautes commises et le temps perdu. Un bel éloge du patronage. On a écrit, enfin, un des témoins du père Planchat a écrit « Avant d'avoir connu M. Planchat, je ne savais pas ce que c'était qu'un prêtre. » Eh bien, je pense que le bienheureux père Planchat a montré qu'un prêtre, c'est un pasteur selon le cœur de Dieu, c'est un homme qui est tout à Dieu, par l'oraison, par l'Eucharistie et grâce à la Vierge Marie. Il a été un prêtre compatissant et miséricordieux, comme le Christ, ardent pour le salut éternel de tous et de chacun. Merci beaucoup.